Bonjour à toutes et à tous, La Route Inconnue, votre magazine dédié à la poésie vivante, celle qui s'écrit, se publie et se lit aujourd'hui, vous est comme de coutume présentée par votre serviteur Christophe Jubien. Avant toute chose, je vous informe que vous retrouverez aujourd'hui les chroniques de Jacques Morin, Louis Dubot et Jean-Claude Touzeil. Notre émission, je vous le rappelle, est parrainée par la prestigieuse revue de poésie des charges, ce dont nous sommes évidemment très fiers. Ceci dit, eh bien, nous allons voyager aujourd'hui, direction le Québec, mais via Vézelay en Bourgogne. Alors, pourquoi Vézelay qui n'est pas vraiment situé sur la route de Montréal? Eh bien, parce que Claudine Bertrand nous y attend. Claudine Bertrand, poète couverte de récompenses diverses et variées, à la fois pour son œuvre et pour ses multiples actions en faveur de la poésie et des poètes. Claudine, disais-je, est née à Montréal, et si elle vit le plus souvent au Canada, elle est aussi une grande voyageuse. Actuellement, Claudine, vous êtes en résidence d'écrivain à Vézelay, donc très occupée. Je vous remercie de nous consacrer une partie de votre temps pour évoquer votre parcours en poésie, vos voyages, vos projets et votre poétique. Alors, bonjour.
Bonjour, ça me fait plaisir d'être avec vous. Merci de l'invitation, c'est très sympathique.
Alors, on va commencer par le commencement. Parlez-nous de votre enfance. Où avez-vous grandi? Qui étaient vos parents et dans quelles circonstances, on suppose soigneusement échafaudées par le destin, avez-vous fait connaissance avec la poésie?
Oui, donc c'est de grandes questions, mais voilà, oui, tout à fait. Je suis née et j'ai grandi surtout à la campagne, donc près d'une rivière, et voilà, donc à Sainte-Rose, peut-être des noms qui vous disent quelque chose. Non, c'est peut-être à 2 heures de Montréal, ouais. Sainte-Rose, Sainte-Thérèse, et à 11 ans, j'ai été retransplantée à Montréal, donc j'ai fait un saut, comme on disait, dans la grande ville, et ça a été quand même une brisure importante, parce que je pense que quand on est dans un lieu, et on habite le lieu à la campagne, et on se retrouve à Montréal pour, évidemment, c'est une rupture avec le milieu environnant, avec les amis. Donc, ça a été un choc pour moi. Et est-ce que ça a été ça le déclencheur de l'écriture? Peut-être, parce que c'est certain que là, me retrouvant plus seule qu'avec des amis que je connaissais bien et que j'ai dû quitter, c'est comme un deuil aussi. Alors, je me suis nourrie de livres, d'écriture, et j'écrivais mon journal, comme je pense plusieurs ados. Mais après, est-ce que ça devient de l'écriture poétique ou qu'on va publier, ça c'est une autre démarche, une autre étape, et effectivement je pense que le contact avec la poésie s'est fait davantage à l'école. Oui. Bon, je sais pas si original ou pas, mais moi dans mon cas c'est vraiment un professeur que j'ai eu et que je salue, Paul Leduc, et qui déjà à 15 ans nous a parlé dans un des cours de Arthur Rimbaud, mais Arthur Rimbaud, elle l'avait connu, si vous voulez, elle nous le racontait comme si elle allait prendre un café avec lui. Alors, c'est ça que nous, on avait les yeux grands ouverts et on dit, mon Dieu, il me semble, 19e siècle avec aujourd'hui, qu'est-ce que... Bon, notre professeur n'est pas centenaire non plus. Et on trouvait ça fascinant parce qu'elle avait eu une manière de nous le rendre justement familier. Et on a plongé soit dans Une saison en enfer, et même si on comprenait pas tout, on voulait tout comprendre parce qu'elle avait une façon d'aborder la poésie de façon plus concrète. C'était, même si c'est abstrait, elle nous faisait lire des poèmes, on apprenait par cœur, on faisait des petites mises en scène, donc déjà, on apprenait par cœur Le Dormeur du Val, Voyelle ou Ma Bohème. Donc, moi, je me suis mise à aimer davantage ce poète. Les autres, bon, des fois, oui, c'est une matière scolaire, mais pour moi, c'était plus qu'une matière scolaire. Et puis après, bon, je pense que j'ai voulu je dirais pas limiter parce que c'est impossible, mais au moins reproduire des petites choses, des petits poèmes que je montrais à mon professeur, justement. Mais elle avait étudié à la Sorbonne, donc c'était une grande fan, on pourrait dire une passionnée, de poésie. Donc, elle m'encourageait par ailleurs, ce qui était parallèle au cours, hein, parce que quand des fois j'avais des dissertations à faire, je lui remettais un petit poème à la fin, donc j'étais pas évaluée sur le poème, mais de là un échange avec elle, et ça a été pour moi vraiment un déclencheur. Et après, bon, on se met à lire tous les autres poètes, évidemment, du 19e siècle, Verlaine, Baudelaire, et le 20e, avec elle, elle nous avait enseigné aussi le surréalisme. Donc, vraiment, c'est un univers qu'on découvrait, et je suis restée très attachée à ce courant de pensée. Et, ben, je pense que vous devez le savoir, ouais. Déjà, je pense qu'en 2000, j'ai reçu le prix Tristan Zara. Précurseur au surréalisme, mais j'ai toujours aimé, c'est peut-être cette audace dans l'écriture. Et puis après, ben la publication est arrivée, publication en revue. Et je pense que je me suis accrochée à ça. C'est que pour moi, c'était vraiment pas nécessairement juste une bouée de sauvetage, mais comme je vous avais dit que j'ai passé d'un milieu extrêmement campagnard où tout le monde se connaît, un milieu de ville qui est assez dépersonnalisé et dépersonnalisant. Donc, l'écriture a été pour moi ce lien, je dirais, ou ce moyen de combler le manque et de me rattacher à quelque chose. Donc, les mots, pour moi, étaient vraiment porteurs. C'est comme si je me racontais des histoires et de fil en aiguille, ben, les mots ont toujours été très présents. Ensuite, relier une histoire, tisser du lien. Donc, pour moi, c'était vraiment un lieu de partage, je pense, et de rencontre, parce que la poésie, c'est ça aussi. Rencontre avec soi, rencontre avec les autres, et voilà que le destin s'est façonné, et puis je pense que vous devez le savoir, j'ai écrit peut-être une vingtaine de livres, mais bon, maintenant, on les compte plus, on fait pas ça pour additionner un livre avec un homme, mais je dis, il y a toujours eu cette façon aussi, peut-être, de vouloir me rattacher d'abord aux écrivains. Et c'était devenu comme une famille pour moi parce que, bon, j'ai sauté rapidement les étapes à la campagne, mais j'ai été adoptée. Finalement, je pense que ce lien-là de l'écriture m'a aidée justement à me rattacher peut-être à une grande collectivité. Parce que quand on écrit, je sais pas, on lit, hein, donc les écrivains qui sont venus avant nous, ben ils sont là aussi pour tracer un certain chemin. Donc, j'essaie moi aussi de laisser une trace, si on peut dire. Mais bon, elle n'est pas terminée, je continue plutôt. Ben c'est un chemin, je pourrais dire, je suis en chemin. Je dirais en route et non en marche, hein, parce qu'en marche, je pense que ça a été utilisé
faut plus dire ça en France.
Récemment, lors des élections. Donc, je suis plutôt en route, en fait. Une route parallèle.
Et toujours insoumise, hein.
Oui, tout à fait.
Comme la France du même nom.
Oui, tout à fait.
Dites-moi, vous m'avez cité Claudine Rimbaud, Baudelaire, Verlaine, etc. Vous n'avez pas cité d'auteurs québécois. Quel poète québécois était incontournable à l'époque?
Oui, et c'est vrai que d'abord on a plongé dans le corpus français et c'est plus tard, ben je pense que déjà je peux en nommer, mais Gaston Miron, oui. C'est le premier grand poète chez nous qui a défendu aussi la poésie, puis les points liés, il a fondé la première maison d'édition en 1953, l'Hexagone, et plus tard j'ai été publiée là, pas au tout début, mes premiers livres, mais pour moi c'est comme un rêve d'être publiée dans la maison mère de la poésie. Et Gaston Miron, c'est le premier et le seul poète qui existe dans la collection Gallimard Poésie, la petite collection de poésie chez Gallimard. Donc, il a fait vraiment œuvre. Ensuite, ben, j'ai beaucoup aimé Gaston Miron. Il disait souvent, bon, je vais sur la place publique et la poésie n'aura pas à rougir de moi. Et c'était quelqu'un qui disait beaucoup la poésie. Il la disait dans des lieux publics. Donc, ensuite, c'est resté là pour nous, ce pôle de référence, un pilier. Ensuite, je veux dire Anne Hébert, parce que dans les femmes aussi, Anne Hébert, c'était une grande poète de poésie, beaucoup axée sur la nature, mais pas que sur la nature, sur traduire, évidemment, des émotions, traduire des histoires. Et Anne Hébert, elle a vécu à Paris dans les années 50 et elle a été publiée toujours à Paris. écrit, mais c'est une grande poète. Elle, c'est très, très épurée. Elle a vraiment des poèmes. Donc, j'ai été très, très, très attachée à son écriture. Donc, je pense que c'est marquant. Et ensuite, j'ai plongé les auteurs québécois, tous les poètes québécois, hommes ou femmes, je dirais les contemporains. Et j'aime bien votre émission, d'ailleurs, quand vous avez dit en introduction, que, évidemment, axé sur les poètes vivants et la poésie qui se lit aujourd'hui, parce que des fois, on vient toujours au 19e siècle, début du 20e. Alors, moi, j'ai plongé tous les poètes des années 60, si vous voulez, ça a été la grande révolution. On disait la révolution tranquille, mais en tout point aussi culturellement. Ouais. Donc affirmer la poésie québécoise, ça a été Madeleine Gagnon. Peut-être que les gens sont moins connus ici.
Alors Gaston Miron est très populaire en France, hein.
Oui. Bon, écoutez, il était le premier à avoir gagné aussi le prix Apollinaire. Ouais. Et puis bon, il est décédé en 1996, mais même s'il est décédé, en 1996, il n'est pas oublié pour autant, hein. Donc, tu vois, les livres font que on lit, on relit, on redécouvre. Ouais. Et il a écrit, au fond, l'œuvre majeure dont le titre est « L'homme rapaillé ». Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, rapaillé?
Non, dites-nous.
Oui, voilà. Donc, c'est ça, c'est comme un mot d'un ancien français qu'il est allé chercher. Au fond, rapaillé, ça veut dire rassembler. Alors, c'est comme s'il rassemble différents morceaux ou différents aspects de l'individu qu'il met dans un poème. Donc, c'est différentes facettes de l'humain, l'homme qu'il va rapailler, qu'il va rassembler en une sorte d'unité. Alors, et c'est un nouveau mot parce que les gens souvent, ici, disons, c'est pas un mot en usage au Québec plus. Oui, on connaît. Et souvent, on dit aux enfants qui partent en vacances, dépêchez-vous, on vous attend, vous rapaillez toutes vos choses, tous vos effets personnels, vous comprenez, de rassembler qui est tout à fait éparpillé. Ouais.
Alors, je voudrais qu'on parle de votre poésie. Comment a-t-elle évolué au fil du temps? Est-ce que vous avez connu plusieurs âges? Est-ce que votre poésie a connu plusieurs âges?
Oui, plusieurs âges, plusieurs périodes. Alors, je pourrais dire, au tout début, bien, je pense que est-ce que c'est le fait de plusieurs écrivains, mais disons, pour moi, c'était une question de me situer. J'étais en recherche de mon identité, donc souvent, en tout cas, ça a été répertorié comme ça, premier temps, c'était une quête des origines, quête de l'identité, qui on est, où on va, donc ça a été au moins dans les 10 premières années, assez marquant. Ensuite, deuxième étape, je pourrais dire la quête amoureuse, parce que quand on apprend à se connaître, à se découvrir, je pense que c'est l'ouverture à l'autre. Donc, quête amoureuse sur différents plans aussi, que ce soit harmonieux ou des fois, il y a des époques de tempête, de turbulence, mais bon, ça fait partie aussi de l'évolution. Et la troisième étape, je dirais, dans laquelle je suis encore, c'est la quête des autres cultures. Donc, et l'Afrique devient aussi, depuis une dizaine d'années, un marqueur d'écriture pour moi. L'Afrique m'a toujours fascinée, d'ailleurs, mais là, je me suis souvenue très jeune, j'avais un oncle qui partait en mission, qui allait en Afrique, et il nous envoyait des petites lettres, des timbres, et un peu qu'est-ce qui se passait là-bas, donc je m'étais dit, un jour, j'irai, alors, j'y vais en mission plutôt littéraire, et aller à la rencontre des autres aussi, comment ils vivent, la culture, et j'ai essayé, moi, d'être un pont entre les voix d'Afrique et les voix francophones chez nous au Québec. Même là, je prépare une anthologie de poésie, d'ailleurs, qui sera publiée, d'ailleurs, Christophe, vous le savez bien, vous-même, ayant publié aux éditions Henri. Donc, je vais publier une anthologie aux éditions Henri au mois de juin prochain et dont le thème est autour de l'eau. Et c'est la francophonie qui va être au rendez-vous, dont le Québec, la France, la Belgique, la Suisse et également l'Afrique.
Ouais.
Donc, les pays surtout que je connais, il y en a beaucoup, mais surtout ceux que j'ai visités, pas seulement visités, mais des fois des séjours. Donc, le Bénin, Cameroun, voyons, le Sénégal, bon, les autres pays sont plus connus, bon, le Maroc, la Tunisie, je suis allée, bon, aussi en Algérie et tout ça. Mais là, je retourne surtout au Bénin, au Sénégal, oui. Parce que au fond, ils ont besoin aussi d'un échange hein, avec d'autres pays pour transmettre leur poésie.
Oui. Est-ce que vous nous cachez, c'est qu'il existe aujourd'hui au Bénin un prix de poésie, Claudine Bertrand?
Ah, ben c'est ça, j'aurais hein? pu le dire. Ben c'est peut-être, oui, à des échanges, à de l'amitié poétique, je pense. Oui, c'est pour ça que j'ai eu le prix, parce que j'ai mis sur pied un concours littéraire et qui se poursuit. Et j'ai invité aussi une délégation de poètes du Bénin au Salon du Livre à Montréal, qui est comme un peu le Salon du Livre à Paris, pardon. Donc, on continue, on est en lien, constant, parce que je continue durant l'année. J'ai fait une anthologie avec eux, avec des voix africaines aussi. Donc, c'est important ce qu'on peut faire. Et quand j'y vais, j'apporte toujours une valise de livres, on peut dire une valise diplomatique, mais elle est remplie de livres. Pas que de mes livres, mais des livres d'écrivains. Et ils sont très, très, très heureux, parce que la première fois que je suis allée, je me suis aperçue que ma valise, dont pouvait meubler peut-être sur les tablettes plus de livres que ce que la bibliothèque contenait. Ah. Alors, je trouvais que, bon, c'est quand même combler une lacune, et ils ont besoin aussi de tout ce qui se passe ailleurs. Ils ont besoin de lire aussi. Ils sont très... très très demandant ou très demandeur. Alors, je pense que c'est important. Cet engagement-là, je continue à le maintenir également d'année en année. Là, je vais retourner l'année prochaine. Et pour l'anthologie, c'est autour de l'eau. Est-ce que vous n'avez entendu parler, Christophe? Non?
Alors, pas encore.
Pas encore, mais ça viendra, hein, ça viendra, parce qu'au mois de septembre, c'est mon projet de mettre ça sur pied. Voilà, parce que là, la résidence aussi, je suis ici pour un petit peu me concentrer sur le lieu. Je pense que le lieu, j'ai beaucoup écrit sur l'Afrique, mais là, je pense que le Vézelay va devenir aussi une genre de destination poétique, je pourrais dire, parce que ça m'inspire, je sais pas, c'est vraiment être retiré aussi du quotidien, me ressourcer.
Je vous avais rencontré sur le marché de la poésie de Paris, où vous avez d'ailleurs été distingué à nouveau, et vous ne connaissiez pas encore Vézelay. Je vous pose la question, est-ce que c'est un lieu qui vous a... C'est un lieu qui est assez beau, qui est très habité. Comment vous l'avez vécu quand vous êtes arrivé là à Vézelay?
Ben, disons que c'était un lieu un peu à conquérir. J'en avais une idée vague à travers des livres, et bon, Gilles Leroy ayant vécu ici, et c'est sa maison qu'il prête, je peux dire, au-delà, même s'il nous a quittés en l'an 2000, eh bien, il a toujours voulu que sa maison soit réservée aux écrivains. Donc ça, d'abord, j'habite le lieu Gilles Leroy, et aussi de ma fenêtre, je suis toujours c'est le paysage que j'ai devant moi. Il y a la nature, évidemment les collines, et il y a la basilique. Donc c'est devenu un lieu mythique que j'ai approché petit à petit. Je le vois de ma fenêtre le jour, le soir, la nuit. Des fois je me réveille, je me dis vraiment c'est un lieu qui est porteur. Et croyez-le ou non, vous savez ce que j'ai fait, Christophe? 3 jours de suite, on m'a demandé de lire dans la basilique des poèmes sur la paix. Non, je pense que c'était ouf, ça donne vraiment à la fois peut-être le vertige, parce qu'on dit, mon Dieu, lire dans ce lieu-là, qui a au moins 1000 ans d'histoire, c'est vraiment assez impressionnant. Donc, ça a un côté aussi mystérieux, sacré, et j'ai composé donc sur place des poèmes sur la paix pour un petit peu alimenter, mes 3 journées. Et ça, c'était pas tout à fait prévu à l'avance, mais ça fait partie aussi des découvertes. Et là, je vais me consacrer sur le lieu, mais j'attends parce que les pierres me parlent, parce que là, je suis entourée de pierres, évidemment, que ce soit par les remparts, parce que c'est une belle cité médiévale, et j'attends que les pierres me livrent leurs secrets pour me mettre à écrire quelque chose. Donc, je suis à l'écoute du langage des pierres.
Ouais. Une question que je voulais vous poser, une question, parce que vous parlez finalement du passé. Le passé du Québec, c'est aussi finalement le passé du continent nord-américain. Ce sont les cultures amérindiennes. Est-ce que vous êtes intéressé aux cultures amérindiennes? Est-ce que vous avez investi ces cultures sur un plan de la création politique? Ou est-ce que vous envisagez de le faire? Pourquoi pas?
Oui, ben donc c'est vraiment une dimension très 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 importante. C'est sûr qu'il y a un intérêt qui s'est développé, même je dirais de par le Québec lui-même en tant qu'individu. Moi, oui, souvent d'ailleurs j'ai essayé d'intégrer des voix poétiques amérindiennes. Maintenant, il y a quelques années, même il y a une dizaine d'années, c'était plus difficile parce que les Amérindiens écrivaient en anglais.
Ouais.
Donc nous au Québec, il y avait peu de voix, on peut dire francophones, et là il y a un réseau qui se développe, et je pense que les auteurs, il y en a au moins 2-3 que je connais, Nathalie Canopé Fontaine, ensuite Joséphine Bacon, qui représente bien les cultures amérindiennes, ouais. Elles sont elles-mêmes amérindiennes, et maintenant dans chaque événement qu'on fait au Québec, des lectures de poésie, je sais pas, des salons du livre, elles sont bien représentées, je veux dire, elles sont invitées, intégrées. Donc, il y a vraiment ce rapprochement qui s'est fait et qui va continuer de se faire parce que c'est une culture très, très riche. Mais d'abord, c'est une culture orale aussi, hein, une culture de l'oralité. Là, il y a un éditeur qui a publié, admettons, des messages peut-être écrits écrits dans les bois. Donc, maintenant, de façon écrite, ça se traduit aussi. Et la façon de dire les poèmes, la culture orale, les Amérindiens sont très proches de la nature. Voilà, donc ça nous rejoint beaucoup, puis je sais qu'au niveau du Québec et du Canada, maintenant, ils en parlent beaucoup au Canada surtout, et donc il y a toute des réconciliations, ils sont sur la voie de la réconciliation avec les cultures amérindiennes, ouais. Et il y a beaucoup de rapprochement qui se fait, oui, nous, donc on est très ouverts, je veux dire, au Québec, maintenant c'est les voix qui commencent à s'exprimer, il y a en cinéma aussi, là je parle côté poésie, mais en cinéma, ça s'est développé. Ensuite, il y a en musique, donc à Chine, il y a beaucoup de groupes, de musique amérindienne. Donc, il y a aussi des chants de gorge. Donc, comme je vous dis, je pense que ça va se développer encore plus.
Ouais.
Moi, j'ai un intérêt personnel et le Québec aussi. Je pense que les poètes, on est à l'écoute de ces voix-là qu'on n'entendait pas non plus. Parce que souvent c'est en anglais, on n'avait pas la traduction, et puis nous on publie des auteurs francophones. Quand je dis nous au Québec, je parle du territoire québécois, parce qu'on est les seuls à parler français, hein, en Amérique du Nord. Comme je disais, en français, c'était plus difficile de trouver du matériel francophone. Mais là, ça commence à se faire. Je pense que ça émerge aussi. C'est des voix. J'ai assisté un colloque aussi. Il y a un village, un village amérindien qui a été reconstruit, mais qui était le leur. Mais il y a beaucoup plus. Il y a les rituels qui sont présentés. Il y a même une école où ils ont des que ce soit dans leur langue. Ça se passe près de Québec, à Wendake. Donc, il y a une communauté importante amérindienne. Donc, on peut aller les voir. Aussi, il y a une librairie. Donc, je pense qu'il y a de plus en plus de connexions là, qui sont en train de se faire. Et ça, c'est intéressant parce que ça enrichit notre culture. Et nous aussi, souvent, on dit les Québécois, on est cousins des Français. Mais aussi, on a vécu avec les Amérindiens d'une certaine façon. Donc, on a la façon aussi de... on a retenu certaines manières d'eux. C'est ça, le contact avec les autres, aussi la façon de négocier. Donc, c'est un peuple très démocratique, déjà, avant l'heure. Donc, je pense qu'on a appris beaucoup d'eux et on a encore à apprendre d'eux, je crois.
Claudine, on arrive au terme de cette émission. J'aurais aimé qu'on parle de plein de choses parce que vous avez rendu d'innombrables services à la poésie québécoise. Vous avez fondé une revue, la revue Arcade en 1980. Vous avez dirigé pendant 25 ans. Vous avez été la co-directrice d'une opération qui s'appelle La Poésie prend le métro. Vous avez vraiment rendu service à la poésie. Et vous le faites d'ailleurs au niveau international aujourd'hui. C'est primordial pour vous.
Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Oui, il y a le mot transmission, je pense, si on retient, disons, dans le parcours, dans mon parcours et dans ce qu'on a dit aujourd'hui, disons, il y a le mot passion, je dirais, parce que passion, poésie, l'un ne va pas sans l'autre, et la transmission qui est justement d'une culture à l'autre, d'un pays à l'autre. J'ai fait souvent de la coédition avec la France et je continue à le faire, que ce soit sous forme d'anthologie, de bouquins qu'on va publier. Et oui, pour moi, c'est une dimension très importante parce que ben, d'abord, ça ajoute une richesse énorme et c'est d'aller à la rencontre, oui, de l'autre culture. Et là, maintenant, je le fais avec l'Afrique, mais disons, ça continue à travers la francophonie. Ben, cette rencontre, oui, elle est vraiment primordiale. Je pense que je pourrais pas arrêter, disons, de le faire. Après, bon, ben, il y en aura d'autres qui vont aller sur cette route-là, mais je pense que le chemin est ouvert et je continue à le faire aussi. D'ailleurs, je vous remercie de l'accueil que vous me faites. Et je voulais vous dire, Christophe,
c'est un vrai
en
plaisir.
Terminant.
Hein? C'est un vrai plaisir.
Oui, et un petit mot, c'est que dernier mot, c'est qu'édition Henry, disons qu'on a parlé des livres, mais mes deux derniers ouvrages, Fleur d'orage et moi, Afrique, a été publié chez Édition Henry, donc vous les connaissez, qui sont plutôt dans le nord de Paris, c'est ça, au Pas-de-Calais, c'est ça? Donc, évidemment, c'est Jean Le Boël qui est un poète, donc qui est amoureux aussi des mots, amoureux des livres et des cultures. Mes deux derniers bouquins sont là et vraiment, je salue le travail qu'ils font. Et en plus, peut-être une petite parenthèse, c'est que je vais revenir en France au mois de novembre dans le cadre du Salon du Livre où le prix du Touquet va être remis. Non, le prix des Trouvères, pardon, va être remis au Touquet, c'est ça? Voilà, donc c'est important de le dire aussi. Le prix continue à... les candidatures sont encore souhaitées jusqu'à la fin août. Et puis après, je viendrai présider ce jury au mois de novembre.
Au mois de novembre.
Donc, voilà, on aura peut-être l'occasion de se voir à ce moment-là.
Je l'espère. Claudine, un grand merci. Je renvoie les auditeurs vers votre imposante bibliographie qui est consultable sur Wikipédia, je m'empresse de le dire. On va écouter un peu de musique et puis je vous lirai, chers amis, quelques poèmes extraits du dernier recueil donc de Claudine Bertrand et moi, Afrique, aux éditions Henry. Merci beaucoup.
Henry. Oui, est-ce que je peux vous dire un dernier mot?
Oui,
bien sûr. Pour consultation ultérieure, livre ou extrait de poème aussi, on peut sur mon site, c'est claudinebertrand.fr, on peut lire des poèmes et puis bon, j'aurai plaisir d'entendre votre lecture à votre radio. Merci encore de m'avoir invité.
C'est moi qui vous remercie, Claudine.
Excellente journée et au plaisir. Hein?
Merci. Merci. Veni, oh, 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 veni, oh. Veni, oh, 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 veni, oh.
En pleine tourmente, l'artiste origine de toute souche sur terre, Afrique. Au bout des doigts, une langue s'affranchit, sol fertile, d'éblouissures, paroles fauves, enfantant la fiction, vagabonde, histoire, tissée de légendes. Un mot triste se balance de ci de là, sur une branche de bananier, comme un adège au soir tombé. Regard sur regard, retourné au ras du saccage, des saisies d'ivoire braconnées. Un soleil de larmes, ce mal-aimé massacré, aux 15 minutes, 30 000 bêtes par an. Chaque jour une plainte, mon Afrique douleur ne me quitte plus. Je suivais l'homme aux pas abandonnés, dans sa noirceur jungle, en bordure du fleuve Sénégal. On le surnomme fleuve mugissant. Déchiffrer ses signes, sa langue clandestine. Ne distinguant sous le parasolier ni ombre réelle, ni consonne, ni voyelle, tu accordes voix aux fièvres du vent, pluie de chamaille sur mes lèvres. Risquer quelques mots, l'obscurité pénètre l'aurore pour s'alanguir en vallée de Lawash, sur fossile de Lucie. On se remémore la naissance de Sangor, l'enfant du pays au sol rouge sang. Gramme d'ivoire, dernier éléphant, encore vivant ce matin sous son barrissement. Antre de nuit brouillard, homme racine et terre, un stentor noir entêté du Sénégal. Façonne son alphabet à l'encre océane, où sorcier de brousse se terre et se tait. Il donne forme au lexique de chair, une alchimie verbe tournée vers son peuple, défaisant les barreaux de fer. Surfer sur la vague des hautes savanes, sait-on lire l'histoire devenue épopée ici même. La lumière danse, arrondit le présent et rend le ciel plus dense, plus bleu que saphir depuis mon arrivée. L'esprit des aïeux hurle tout bas. Il imprègne chaque geste, se confond au crépuscule, traçant tout alentour le contour des pensées secrètes. S'incarner en spirale, utopie va et vient, s'amplifiant et tourne vent. Je vole moult sommeil au félin des nuits, comme musique de liane en air familier. Je te donne cette histoire de folie humaine, tu la laisseras là où je l'ai trouvée, aux portes de Gorée, dans le froid des esclaves. Quand viendra un autre orage mouiller les paupières closes et ouvrir le jour, les langues s'enrouleront pour habiter le cosmos et dire les palpitations comme chaque prière. Incantation pour le bétail, qu'il s'accroisse comme feuille de raffia. Incantation pour les chèvres, qu'elles ne perdent pas un chevreau, pointant vers le ciel. Fille du tambour parlant, donnant la bénédiction pour ensemencer et éloigner les charognards, précède-moi où je vais. Cérémonial d'ablution, autour des chiens, véritables chasseurs, compagnons des hommes, ces porteurs de feu repoussent les forces maléfiques. Le frère autre soi, on pleure sa mort, où le poète repose sans crier gare. Je me voile les yeux, tente de contenir mes larmes amères, mêlées au grimoire. Joal, village natal, envahit toute existence, enjambe notre devenir, tout est là, ici et là. Port agréable, profusion de vivres et vin de palme, maison familiale du président désigné, maison du lion en serrère, incorrigible lion, au regard errant, dompteur de brousse, tu unis le jour et la nuit en forme de verset. Certaines paroles ont goût de fièvre. J'écris le mot étreinte comme Ifriqiya. Il respire le sens de l'insaisissable, à jamais dialecte si peu banal. Tu formules des phrases emmêlopées de souffrance où la steppe domine. On dispose en vers le chant de ton sang, le temps gémit. L'encre noire pulvérisée à flanc de pierre et d'esclavage, amnésie du monde. Rythme du tam-tam, tendu sur la poitrine, quand se soulèvent les cils de Mamiwata. Je croise le vieillard récitant des contes sous l'arbre de l'oubli. L'inattendu surbout de langue, il le démultiplie entre émois et Afrique nouvelle. Au fond de chacun un poète sommeille, laisse-t-il échapper d'un œil sibyllin. Des vertiges lisses sous les baobabs et près des flamboyants nous rêvons. Frissons imprévus, profusion de saveurs, papaye, mangue, goyave, on se gave de fiction. Abondance de parfums, tissus de coloris, une mise en scène ravive nos sens. On dépose sur la tombe de l'écrivain Mongo Betty, fleurs, poèmes et arômes, maintes imprécations indigènes. L'arbre non loin de là, aux fruits étranges, s'est mis à gémir à cœur de peau. Au bord de la route, un couple vêtu d'un pagne semble attendre fébrilement notre départ, prêt à jeter l'éternité dans le ravin. Muni d'une longue machette, règlement de compte, dette ou déraison. Déterminé à trancher la question, à se faire justice sous une pluie de cantiques païens, encore et encore ta voix du fond de la tombe. Elle est ô lac rivière, fleuve mugissant aux flétrissures du vent. Sur les murs de la librairie des peuples noirs, tes écrits rappellent ta rébellion et scandent la liberté autrefois bâillonnée. Elle rend à la parole délires et révoltes. L'univers éclate à ce point d'étrangeté, la poésie à visage nègre, en Afrique espoir. Sans bord, sans limite, des voyants retrouvent leurs récits imaginaires, chimères d'outre-temps. Rejouer son théâtre dans la mosaïque de forêts-savanes où la rumeur du monde se rapproche, blouse noire au pays d'Amin. L'abîme est en nous, là où les mots sont cris sauvages, au royaume du Dahomey. La main cherche ses notes de terre, soufflant dans le sens de la mousson et des balafons. Les murs craquent, les baraquements éventrés tombent en ruine, nuit encore chaude. Nous naviguons dans la fêlure du temps assassin, nous fuyons les décombres du passé. ce spectacle à l'ombre des héros mythologiques, en délire verbal, à la croisée des destins sur la route de Ouida. Reflétant le déséquilibre de la société soumise, il y a des contorsionnistes clowns saltimbanques qui font frémir ta chair. Une chorégraphie de danseurs en transe se déhanchant occupe tout l'espace. Nervosité du rythme au son du djembé, médiumnité fébrile, décoloniser le corps. Voilà, c'était quelques extraits de « Et moi, Afrique » de Claudine Bertrand, publié aux éditions Henri, collection « Les écrits du Nord ». L'harmonie de Bassekou Kouyato et Ngoni Ba, c'était Bassekou. Voilà, je vous propose à présent de retrouver deux chroniques à suivre. Celle de Jacques Morin, directeur de publication de la Revue des Charges, et celle de Louis Dubot, notre nouveau chroniqueur, un grand monsieur de la poésie française qui fonda et dirigea pendant de très nombreuses années les éditions du Des Bleus, mais aussi poète de valeur, évidemment. Jacques Mau et Louis Dubot.
Revue du mois. Audio numéro 52, et cette fois c'est donc la revue Voleur de Feu numéro 7. C'est une revue sous forme de livret qui associe un auteur et un artiste. Livret de collection à édition limitée, est-il précisé. De la belle ouvrage à admirer et à lire. La revue créée en 2016 par les éditions Double Vue et William Mathieu, fut d'abord trimestriel avant de devenir semestriel à présent. L'artiste, c'est Iris Miranda. Ses illustrations sont des reproductions de gravures à la pointe sèche sur plexiglas. Il y en a 12 et toutes présentent une même intrication entre le corps féminin et l'univers végétal. Fleurs, feuilles, branches semblent déboucher le plus fréquemment du sexe de la femme devenu lieu de naissance d'un autre ordre. Il suffit de prendre connaissance des titres de ses œuvres pour saisir cette alliance sauvage et foisonnante entre corps et flore. Embrasser, flora, pousse, hortus, humus, sous-bois, symbiose, sève, etc. La problématique de la plasticienne tient avant tout à cette réinvention des êtres et des plantes. Il n'y a pas opposition entre la chair et l'arbre. Les deux se mêlent, s'enchevêtrent, s'unissent, et s'équilibre. Tel est l'objectif que s'est fixé Iris Miranda en suivant le fil de sa gouge. L'auteur, c'est Christian de Goutte, un de nos favoris. 12 poèmes, avec cette coquetterie de les titrer par celui d'un morceau joué par un chanteur, un musicien ou un compositeur, dont le nom est donné en fin de texte, juste sous le lieu d'écriture. Christian de Goutte s'est presque spécialisé dans ses portraits de femmes qu'il regarde de loin dans différents endroits des diverses circonstances, et son œil, d'une acuité surprenante, recueille énormément de sensations dues à la sensualité brute qui traverse ensuite sa poésie. Donc une courte scène à un moment précis, quelques images au rythme cinématographique, un extrait de vie plutôt banal, mais lorsque cela est chippé par l'auteur, il se passe quelque chose de plus qu'il est seul à savoir capter. Ces femmes souvent marchent, traversant une place ou un parking, et leurs jambes le fascinent. Elles passent comme on voudrait passer, en dansant sur le fil de son propre souffle. Dans une usine occupée, nerveuse, soyeuse, ses jambes tressent leur fumée. Ou encore au bord d'un lac, chignons noirs, les baigneuses encore, leurs jambes allongées qui poissonnent sous l'eau. Il sait détecter tristesse et mélancolie dans les gestes, les attitudes, les yeux. On peut courir longtemps sans s'éloigner d'un souffle de son chagrin. Ou ailleurs, c'est quel voyage mélancolique une femme qu'on regarde rêver. Empathie, humanité, tendresse, quel mot employer? En tout cas, ce regard saisit à la fois une bribe d'existence et une situation éclair dans une même émotion que son écriture fragmentée rend au mieux. Notons enfin la rencontre évidente entre les deux auteurs concernant le rôle majeur de la femme dans leur art respectif et les saillies plus discrètes sur l'aspect végétal, entre platanes et prairies, ici ou là, l'herbe brûlée. Le concept de voleur de feu fonctionne parfaitement et le résultat vaut le détour à tout point de vue. 15 euros, l'adresse de voleur de feu, 19 rue Maurice Rontin, 47 170, Mézin. À la prochaine fois.
Du bleu de travail à la variable d'ajustement. La macronisation du Code du travail place à la une de l'actualité un livre paru il y a 6 ans déjà. Mais un livre de poésie inaugurant une collection politique chez un éditeur réputé, les éditions de la Différence, c'est tout de même plutôt rare à notre époque. Tant est manifeste et quasi récurrente l'extrême frilosité des poètes contemporains à s'emparer de sujets politiques, sociaux, voire économiques. Comme si les poètes pouvaient ignorer la réalité critique du quotidien qu'ils partagent avec l'ensemble des hommes. Le livre de Patricia Cotron-Daubigné, Croquis d'émolition, marque un début de forte prise de conscience, consubstantielle à un vécu tragique, la délocalisation d'une usine avec tous les dégâts collatéraux consécutifs. Casse économique, sociale, affective, désertification d'une région, solitude désespérée de ceux qui sont cassés. À l'auteur, compagne d'un des ouvriers de l'usine SKF à Fontenay-le-Comte en Vendée, KSF dans le livre, sollicité par des femmes et des hommes qui n'ont pas les mots pour dire leur désarroi, revient la tâche ouvrière d'écrire un livre afin de laisser une trace quand ici tout sera fini. Elle se met à l'ouvrage avec, dans le ventre soudain, comme un rétrécissement de vivre, et la colère aussi. Et elle trouve les mots bruts parce qu'ici le lieu est brutal. Chronique du lieu, du démantèlement du lieu de travail et de vie. Délocalisation, comme on dit aujourd'hui. Et pas la première ourdie par la firme multinationale. Dans les années 70, déjà de Paris à Fontenay, l'usine délocalisée de la capitale trop chère à Fontenay-le-Comte, Vendée, province, où les paysans courbent les chines pour de bas salaires, les grèves sont quasi inexistantes, les syndicats sont responsables, sic, rien à voir avec les gauchistes fainéants qui foutent le bordel. Et maintenant, c'est de Fontenay vers la Bulgarie, où la misère fait travailler plus de temps pour gagner encore bien moins. Et on peut augurer sans trop se tromper que l'usine bulgare sera à son tour délocalisée vers un lieu de misère encore plus grande, au Bangladesh par exemple, où un SMIC français rémunère 20 ouvriers, chacun permettant à 30 personnes de survivre. Les dividendes des actionnaires multipliés d'autant n'entravent en rien cet aspect humanitaire d'une délocalisation. Ainsi en va-t-il de la mondialisation du marché et de l'emploi. La logique capitaliste de l'horreur économique, Nancy Houston, affiche un cynisme qui n'est insupportable que pour ceux qui en sont les victimes. Les victimes, ce sont des hommes qui travaillent. L'histoire les dénomme selon les contextes et les époques. Servus, esclave, serf, journalier, prolétaire, et aujourd'hui, variable d'ajustement. On conviendra que le concept est propre, abstrait, inodore, insonore, insipide, désincarné, exsangue, une merveille du jargon de l'entreprise. Or, ce dont il s'agit dans ce livre, c'est la tragédie d'une usine. Et l'usine, c'est du cambouis, du goudron, de la sueur, du bruit. Et le mot « bruit » ne fait pas de bruit. Comment dire l'usine pour la vérité du bruit dans les mots ? La vérité du vivant au travail, au moment où nous perdons notre travail et qu'ils encaissent. Le poète met du bruit dans les mots qui ne font pas de bruit. Le poème fait du bruit. Ça grince de justesse. L'engrenage des mots derrière le sourire et le jeu, le roulement bien huilé, le travail bien fait, les mots disent, avec maladresse souvent, avec force fragile et déterminée toujours. Il faudrait, admet le poète, une langue nouvelle. Des mots qui disent l'usine et le bruit qui empêche les phrases, pendant que, sans bruit, des lettres à belle en tête et paraphes superbes, tout de morgue retenu, prononcent le licenciement. Pour dire l'humiliation des ouvriers qui font une haie de déshonneur au patron, marchant dessus le drapeau de son pays, le regard lorsqu'il foule aux pieds les bleus de travail et les t-shirts, de la vie bafouée, offensée, outragée. Notre bleu de travail, c'est notre vie, une seconde peau, dit une femme qui touche le tissu, caresse sa peau de tissu, caresse sa vie d'ouvrière qui se clôt. Et dans l'amour, le corps nu, le cœur battant, quand je t'aime, on conserve l'odeur dans ta peau. Aujourd'hui, après que chacun a déposé son bleu qui brûle longtemps dans des odeurs noires, dans le grand trou, l'énorme roulement à billes, emblème de l'usine traître, tient lieu de pierre tombale. Demeure à jamais un grand trou dans l'âme, le saccage d'une vie qui avait un sens pétri de sueur et de sang, la logique de l'insensé d'un monde machine dont on extirpe la moindre parcelle déviante parce que trop humaine, simplement humaine. Patricia Cotron de Bigné nous donne un magnifique et grand poème tragique, à l'instar des « tragiques » élaborés jadis en d'autres circonstances tout autant inhumaines, d'un certain Agrippa d'Aubigné, qui fut gouverneur huguenot de Maizet, à quelques kilomètres seulement de Fontenay-le-Comte. Les éditions de la Différence étant en liquidation, on peut cependant se procurer le livre auprès de l'auteur, qui en a récupéré quelques exemplaires. Donc, croquis démolition, 10 euros, à l'adresse mail de Patricia Cotron d'Aubigné, j'appelle l'adresse mail, Cotron, C-O-T-R-O-N, point, latin, L-A-T-I-N, arrobase, orange.fr.
Magnifique chronique de Louis Dubois que je me permets de saluer au passage. Nous arrivons presque au terme de cette émission et on va finir comme tous les mois par un sourire, celui de Jean-Claude Touzeil, poète, animateur du blog Bilebas et créateur et infatigable animateur du printemps poétique de Durcé dans l'Orne. Excellente fin de journée à toutes et à tous. On se retrouve, ne l'oubliez pas, dans 15 jours pour une nouvelle édition de La Route Inconnue.
Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous propose des poèmes de Meredith Ledez, je crois qu'on prononce comme ça, qui est une poète de Bretagne, de Saint-Brieuc. Elle a reçu il y a peu de temps le prix Vénus Curigata pour Cavalier seul aux éditions Mazette. La nuit, si je ne dors pas, les deux chevaux dans ma tête ne dorment pas non plus. J'écoute leur monologue inconciliable, et parie sur qui des deux le premier se lassera des mêmes radotages. Cheval des heures enfuies, cherche à comprendre pourquoi l'herbe n'a pas été meilleure à son palais et pourquoi l'issue des courses lui fut si défavorable. Cheval des lendemains, qui aurait chanté, entonne la leçon sempiternelle, facile pour lui de s'en laver les mains avec des si, on refait le monde. Deuxième poème. Je vois dans le miroir cet autre que moi, tout aussi étonné par l'âge, énigmatique, venu en somme brouiller la piste, ce corps cavalier avec l'intérieur de sa tête toujours trop en retard ou en avance. Troisième poème extrait là de Quatre chevaux de hasard, édition Follavoine. Couteau de la nuit, simplement posé sur la plaine. Si la gorge tranchée du silence offrait à nos mains des pavots rouges. Mais à peine une fleur d'écume tremble dans l'ombre et s'oublie aux portes closes. Voilà, c'était Meredith Cadet qui sera au prochain printemps d'Ursay, 14-15 avril 2018. Je termine en vous lisant deux, trois questions un peu stupides. Est-ce qu'il est bien raisonnable de baigner son bébé dans l'AA? Est-ce que les antisèches sont encore efficaces par temps de pluie? Est-ce qu'il le laisse dans la valise, le lys dans la vallée? Est-ce que le cheval s'emballe plus facilement dans du papier cadeau? Est-ce que la tour de Pise a été mise en redressement judiciaire? À bientôt.
So now it's over. What do? Do I learn from my mistakes? Realize just how I got here. Angry and alone. Did I succeed in proving you wrong? Was I trying to prove? I'm just a lonely winner, nothing left to lose. What about the children? Angry and alone. Did I succeed in proving you wrong? Well, I won the battle, but I lost. Everything that really mattered just walked out the door. Well, I changed my ways, do it all over again. Looking back at me, I see the man you said would never change to keep his family. But I'm changing, 'cause I don't wanna be alone.
succeed in proving you wrong. I'll succeed.